France Culture.
Dans son ouvrage intitulé « Pourquoi les intellectuels se trompent ?», l'un de nos invités ce soir, Samuel Fitoussi, avance l'idée que les intellectuels préfèrent le confort de l'aveuglement plutôt que la quête de la vérité. Selon lui, non seulement l'intelligence ne protège pas de l'erreur, mais elle y prédispose. Alors quelle place la figure des intellectuels occupe-t-elle aujourd'hui dans le débat public ? Existe-t-il en France un anti-intellectualisme latent ? Et les chercheurs, les essayistes, sont-ils faits pour débattre ensemble ? On va vite le savoir, le comprendre avec nos deux invités. Samuel Fitoussi, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'inviter.
Merci à vous d'être ici. Vous êtes essayiste et chroniqueur au Figaro. Vous avez publié donc cet ouvrage intitulé « Pourquoi les intellectuels se trompent » en avril dernier aux éditions de l'Observatoire. Face à vous, Ludivine Bantini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste des mouvements sociaux. Vous avez publié notamment « Nous ne sommes rien, soyons toutes histoires de femmes en lutte et de lutte féministe de la Révolution à nos jours ». Un ouvrage qui a paru en mars dernier aux éditions du Seuil. Merci à vous deux d'être présents ce soir.
Merci beaucoup.
Dans Question du soir. Et je le disais, Samuel Fitoussi, le titre de votre ouvrage, Les intellectuels se trompent, vous dites les intellectuels et non des intellectuels. Est-ce que vous vous inscrivez ainsi dans l'histoire longue, plurielle, on y reviendra d'ailleurs, d'une forme d'anti-intellectualisme à la française qui traverse l'histoire de notre pays depuis, selon la chercheuse Sarah Almatari, la révolution industrielle ?
Absolument pas. Mon livre n'est pas un plaidoyer contre les intellectuels. D'ailleurs, il a été question à un moment avec mon éditrice qu'on prenne le titre « Méfiez-vous des intellectuels ». Je m'y suis fermement opposé parce que ma thèse n'est pas du tout cela. Ma thèse n'est pas que les intellectuels se trompent tous et encore moins qu'ils se trompent tout le temps. Simplement,
c'est ce que dit le titre pourtant.
Pourquoi les... c'est je cherche à expliquer pourquoi les intellectuels se trompent lorsqu'ils se trompent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se trompent tout le temps. Parce que quand on regarde l'histoire intellectuelle du XXe siècle, il y a une vraie énigme. Pourquoi tant d'esprits brillants, Sartre par exemple, qui était un des esprits les plus brillants de son temps, agrégé de philosophie, diplômé admis à normale supérieure, pourquoi lorsqu'il s'est engagé en politique s'est-il trompé si souvent ? Il a légitimé le terrorisme palestinien au JO de Munich, il a applaudi l'URSS, il a expliqué que le niveau de vie en URSS dans les années 60 serait de 30 à 40% supérieur au niveau de vie en France, alors que en vérité, en URSS, en raison précisément du système économique collectiviste, les morts, les millions de morts s'accumulaient. Il a soutenu évidemment Mao, il a soutenu la révolution islamique en Iran avec les conséquences que l'on connaît. Donc c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que son intelligence ne l'a pas protégé de l'erreur ? Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser notre intelligence pour rationaliser des absurdités? On sait que Orwell disait que certaines idées sont tellement absurdes que seuls les intellectuels peuvent y adhérer. Donc je cherche à montrer en quoi Orwell, d'une certaine manière, avait raison. Mais mon livre n'est pas un plaidoyer contre l'utilisation de l'intelligence. Au contraire, je cherche à montrer que des obstacles cognitifs se dressent contre la bonne utilisation de la raison. Et c'est une sorte d'appel à l'humilité, un appel à mieux raisonner et non pas à ne pas raisonner.
Ludivine Bantini, votre point de vue, est-ce que même la question pour vous est légitime de se demander qu'est-ce qui, parfois, amène certains intellectuels à se tromper ?
Oui, je pense qu'il y a d'emblée un problème de définition, j'imagine qu'on y reviendra, et d'essentialisation justement des intellectuels, parce que votre titre, en effet, fait une essentialisation, fait une généralisation. Ouais. Et ensuite, y compris lorsque, par exemple, vous évoquez Sartre comme s'il y avait une sorte d'essence sartrienne, vous ne tenez pas compte de ces évolutions. Et comme historienne, c'est vrai que ça me gêne beaucoup, voire ça me choque à certains égards, mais on pourra donner un certain nombre d'exemples. En l'occurrence, pour ce qu'il s'agit de Sartre, il a beaucoup évolué par rapport à l'Union soviétique, il est devenu extrêmement critique à l'égard des partis communistes. Il est aussi devenu très très critique au point en 1968 d'être frontalement opposé à la politique des communistes. Ce que vous dites n'est pas exact non plus sur le Sartre de 1979 et de la révolution en Iran, parce que ce qu'il soutenait, c'était le mouvement révolutionnaire populaire qui était extrêmement hétérogène, et notamment avec toute une part de syndicalistes, de communistes, de socialistes, et n'était pas dominé dans la première phase de la révolution par les islamistes. Mais de manière générale, moi, je pense que la question des intellectuels se pose de moins en moins. Et d'ailleurs, Sartre et Foucault, qui sont noirs, Samuel Fitt aussi, ont eux-mêmes complètement relativisé la définition que vous en proposez ou vous semblez en proposer. C'est-à-dire que pour eux, ils ne se s'auto-désignaient pas spécialement comme des intellectuels. Pour eux, était intellectuel la personne qui, comme le disait Sartre d'ailleurs, met un grain de sable dans sa propre machine et se met avec sa réflexivité, avec sa capacité de penser, à s'interroger sur la fonction et la place qu'il occupe dans la société.
Alors justement, parlons de définition. Je vais vous laisser réagir, évidemment, Samuel Fitt aussi, mais écoutons Jean-Paul Sartre et la définition qu'il donnait lui-même de l'intellectuel.
L'intellectuel apparaît à partir du moment où l'exercice même de ce métier fait jaillir une contradiction entre les lois de ce travail et les lois mêmes de la structure capitaliste. Mettons, si vous voulez, que lorsque le savant, qui a nécessairement un rapport constant avec l'universel, puisqu'il cherche les lois, lorsque le savant s'aperçoit que cette universalité, qui devrait se retrouver partout, n'existe pas dans le monde, que là nous ne trouvons plus des concepts universels, mais que nous trouvons au contraire des classes opposées, qui n'ont ni le même statut, ni la même nature, que l'humanisme bourgeois, par exemple, qui se prétend universel, est en réalité un humanisme de classe, à ce moment-là, si on trouve cette contradiction, le savant la trouve en lui. Si, en même temps qu'il est élevé par les bourgeois, instruit par les bourgeois, et par conséquent, avec malgré tout des concepts bourgeois en lui, il sent que son propre travail le conduit à l'idée d'universalité qui est contraire à celle des bourgeois et par conséquent à la nature qu'on lui a constituée, alors il devient intellectuel.
Voilà la définition complexe, hein. Il faut le dire, que Jean-Paul Sartre donnait dans une entrevue à Claude Lanzmann en 1967. La vôtre, Samuel Fitt aussi, deux définitions. Qu'est-ce qu'un intellectuel ?
Bon, déjà, je trouve la définition de Sartre complètement catastrophique. Il définit l'intellectuel comme celui qui s'oppose à l'ordre bourgeois, présupposant qu'on vit tous sous des constructions bourgeoises. Il définit l'intellectuel comme celui qui globalement est de gauche. Je pense que c'est pas une bonne définition de l'intellectuel, parce que dans sa définition, Raymond Aron n'entrerait pas. Or, Raymond Aron était indéniablement un intellectuel. Moi, je définis l'intellectuel comme celui d'abord qui raisonne, mais aussi malheureusement comme celui qui souvent, dont le travail commence et finit dans la sphère des idées, et donc celui qui ne subit pas directement les conséquences de ses erreurs. Et ça pose des problèmes, si vous voulez, parce que si vous êtes boulanger et que vous vous trompez dans la fabrication de votre pain aura mauvais goût, vous perdrez des clients, votre boulangerie fera peut-être faillite. Vous subissez directement les conséquences de vos erreurs, et ça, ça crée une incitation psychologique qui vous incite à penser de façon plus juste, à essayer de vous rapprocher de la vérité.
Pardonnez-moi, je vous coupe. Si je refais le monde au bistrot avec un ami, j'entre dans votre définition.
Oui, bien sûr, mais la différence... Donc, si vous refaites le monde au bistrot avec un ami, effectivement, vous entrez dans cette définition, mais la différence, c'est que vous êtes au bistrot. Vous ne vous exprimez pas, vous ne vous engagez pas, vous n'essayez pas par vos idées de changer le monde. L'intellectuel refait le monde et essaye de refaire réellement le monde, au sens de le changer, le réordonner. Il cherche à s'engager, à avoir une influence publique. Donc en cela, il se distingue de celui qui parle au bistrot. Ce serait moins intéressant d'analyser le baratineur au bistrot, car celui-ci n'a pas une influence majeure sur la direction que prend notre société. Mais donc, je décris dans mon livre, parce que dans mon livre, je cherche en effet à expliquer pourquoi les intellectuels se trompent, et non pas juste à lister des égarements d'intellectuels. D'autres l'ont fait très bien, Jean Sévilla par exemple, ou Jean-François Revel dans La connaissance inutile. Mais je cherche à expliquer pourquoi ils se trompent, et une partie de l'explication, à mon sens, est cognitive. Quand on ne subit pas les conséquences de ses propres erreurs, eh bien, on est encouragé, on est incité psychologiquement à choisir les croyances qui nous confèrent un statut social plutôt que les croyances les plus justes.
On va revenir sur ce pourquoi, mais votre définition d'abord, Ludivine Bantini, pour qu'on puisse partir sur des bases communes dans cette discussion.
Oui, alors par exemple, il y a une définition canonique dans l'historiographie des intellectuels, c'est celle de Pascal Horry et Jean-François Serinelli, qui ont consacré une histoire des intellectuels en France, et ils disaient que c'était alors un homme, en leur temps, c'était un homme homme du culturel mis en situation d'homme du politique. C'est-à-dire qu'on est dans le monde des savoirs, on est dans le monde de la recherche et des savoirs dans toute leur diversité d'ailleurs, et on se place en situation d'engagement politique. Alors il ne s'agit pas nécessairement de refaire le monde, mais d'exercer un esprit critique et donc en effet de partir de constats qui sont des constats savants, scientifiques, pour en tirer des conséquences sur le monde tel qu'il est, tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Et donc, ce qui me gêne, en l'occurrence, dans cette première partie de la discussion sur la définition, c'est que d'emblée, vous ne donnez pas une définition, vous partez d'un biais de conséquences. Pour vous, l'intellectuel, et en fait, quand on lit votre livre, l'intellectuel, chez vous, c'est l'intellectuel de gauche. Celui qui se trompe, c'est nécessairement l'intellectuel de gauche.
Heidegger et Carl Schmitt, ça n'était pas de gauche.
En fait, vous ne citez quasiment que des intellectuels de gauche. On pourrait y revenir en détail. Mais justement, vous estimez que d'emblée, il se trompe. Vous estimez aussi que l'intellectuel serait dangereux. Et vous dites d'ailleurs, c'est une des conclusions de votre livre, mais moi j'en parle maintenant parce que justement sur la question de définition, ça pose un vrai problème et méthodologique, mais aussi, j'allais dire, déontologique, enfin de presque philosophique, mais de morale. Vous dites que les diplômés sont dangereux pour la démocratie. Donc, en fait, ça revient d'ailleurs à ce que vous venez de dénoncer à propos de cette définition. Ça pose un vrai problème. En l'occurrence, d'abord, l'intelligence, n'est pas propre, évidemment, aux intellectuels. Et ceux qui ont été étiquetés comme des intellectuels, et encore une fois, voilà, moi, je fais pas de ces gens des fétiches. Et là où j'approuve votre démarche, c'est justement l'idée de défétichiser ces figures. Mais ils y ont largement contribué. Et encore une fois, Sartre ou Foucault n'ont fait que passer du temps à déconstruire justement cette figure de supposé savant. Là, quand Sartre s'exprime dans l'extrait qu'on a entendu, il exerce simplement une sorte de réflexivité sociologique. Il s'intéresse au fait social que la plupart de ceux qui sont désignés comme des intellectuels viennent de milieux plutôt privilégiés et que donc, à un moment, certains d'entre eux vont s'interroger sur la situation dans laquelle ils sont placé par ses privilèges. Moi, je pense que c'est tout à son honneur, d'ailleurs. Par exemple, s'il avait répondu uniquement à la matrice tout à fait bourgeoise à laquelle il correspondait et dont il venait du point de vue des origines sociales, il aurait pu se désintéresser parfaitement du colonialisme, de l'état du monde, de la pauvreté dans le monde, du racisme ou tout simplement du fonctionnement même du capitalisme. Mais voilà, je pense qu'il faut bien distinguer, d'une part, la question du savoir et dès lors de la recherche, et d'autre part, la question des convictions et des valeurs. Alors, on pourra en parler parce qu'il me semble que c'est un débat qui est méthodologiquement très intéressant, mais dans la définition, il y a les deux, l'intellectuel et toute personne qui va établir des savoirs rigoureusement sourcés, ça c'est très important, la question des sources, rigoureusement documentées, et où il y a une vérité, pour parler comme vous, la rationalité épistémique. Et bien sûr qu'il peut aussi y avoir ce que vous appelez une rationalité sociale, c'est-à-dire leurs convictions, leurs valeurs, au sujet desquelles ils peuvent se tromper. Mais je pense qu'il ne faut pas être relativiste, comme à mon avis vous l'êtes, mais non. Ça m'intéresse d'en discuter avec vous plus précisément à partir d'exemples. Il ne faut pas être relativiste en jetant, par exemple, l'université, que vous considérez comme un monde truffé d'irrationalité et de problèmes scientifiques, en fait, ou non scientifiques, avec l'eau du bain de la critique saine du monde social, de ceux qui sont nommés comme intellectuels, ceux et celles. Il faudra là aussi y revenir.
On va partir d'un cas précis, En l'occurrence, je vais vous laisser la parole évidemment, mais on va partir d'un cas précis, Simone de Beauvoir en Chine, dans quelques instants. Avant cela, Samuel Fitoussi, je vous laisse évidemment réagir.
Oui, je pense que vous me faites beaucoup de procès d'intention sans répondre précisément aux arguments que j'émets dans le livre. Vous dites que je critique uniquement les intellectuels de gauche. Déjà, c'est faux. Je parle de la fascination de l'intelligentsia allemande pour le nazisme et qui a beaucoup séduit sur les campus. Je m'appuie notamment sur l'historien Paul Johnson pour dire ça. Mais il est vrai que sur la période que je couvre majoritairement dans mon livre, ce qui va de 1945 au début, à la chute du mur de Berlin, ce sont les intellectuels de gauche en France qui se sont le plus trompés. Ils se sont le plus trompés, peut-être pas d'ailleurs car ils étaient de gauche, mais parce que simplement ils étaient en position de domination dans le débat public. Quand on est en position de domination, le coût social de l'erreur est plus faible, leurs propos étaient moins scrutés, ce qui les encourageait moins à la précision.
Leurs propos étaient moins scrutés alors qu'ils étaient plus en vue ? J'ai du mal à comprendre le...
En fait, quand vous avez moins d'opposants, quand vous pouvez plus souvent vous exprimer sans vous heurter à la contradiction, on va moins aller vous chercher des poux, on va moins vous dire attention là, tu sais pas très précis ce que tu dis, ce que vous dites, etc.
D'accord, mais ils sont tout de même scrutés, analysés, écoutés.
Évidemment. Mais donc de fait, les intellectuels de gauche se sont plus trompés en face des gens comme Jean-François Revel et Raymond Aron sur le je sais que vous allez me répondre sur Aron et,
oui mais bien sûr je sur, vais mais, répondre mais, sur Aron mais, parce que je l'ai lu attentivement
d'accord mais je ne dis pas qu'Aron s'est jamais trompé mais Aron et Jean-François Revel n'ont pas soutenu des régimes qui faisaient des dizaines de millions de morts. Simone de Beauvoir, on va sans doute en parler après, mais Simone de Beauvoir a, elle était de gauche, oui, c'est pas pour ça que je vais me refuser à la critiquer, elle a quand même soutenu Mao, elle a rencontré Mao, elle a écrit un livre de 400 pages à la gloire de Mao, et elle est restée aveugle sur Mao pendant très longtemps, ce qui est quand même étonnant, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas à terme changé d'avis, mais elle a quand même publié un livre à la gloire de Mao, où elle expliquait que le maoïsme était un humanisme, ce qui pose quand même question. Ensuite, sur l'université, non, je m'oppose pas, moi, au savoir, je suis moi-même diplômé, j'ai pas de doctorat, mais je suis diplômé, j'ai appris énormément de choses à l'université, simplement, je montre que certains départements de sciences sociales sont devenus aujourd'hui, de fait, des espaces de monoculture idéologique.
Alors, on va y revenir. Je me permets de vous couper parce qu'on ouvre déjà un autre sujet. On reviendra, évidemment, à la question de l'université. Je voudrais juste vous faire entendre la voix de Simone de Beauvoir et puis Ludivine Mantini. Vous répondrez sur cette critique-là qui lui est adressée.
Nous avons parfois l'impression, vu de l'Occident, madame, qu'il y a un certain culte rendu à sa personnalité. Est-ce que vous avez pu voir cela sur place ?
Je ne crois pas. Je crois que le culte de la personnalité, au sens où on en parlait à propos de Staline, ne s'applique pas en Chine. J'ai vu les fêtes du 1er octobre, j'ai vu un enthousiasme vraiment tout à fait délirant de la population, et certainement pas provoqué, parce qu'il y avait 500 000 hommes, femmes, enfants, qui défilaient vraiment dans la joie, et quand ils passaient devant la tribune, c'était très touchant de les voir sauter de joie, tendre leurs fleurs vers Mao Tse-Tung, etc. Naturellement, il y a aussi beaucoup de chansons qui sont faites à son adresse, que les gens aiment à chanter, mais tout cela donne l'impression d'une espèce de véritable affection du peuple pour lui, beaucoup plutôt que d'un culte proprement dit. Son image n'est pas répétée partout, on ne le cite pas sans cesse. Puis il est président de la République, mais il travaille avec toute une équipe et ses pouvoirs sont relativement limités.
Simone de Beauvoir en 1957, Ludivine Bantini, donc votre réaction, votre réponse à Samuel Fitoussi.
Alors il y a plusieurs choses. La première, donc, c'est sur Simone de Beauvoir, que vous citez notamment dans Une morale de l'ambiguïté. Alors je vais me référer à, en parenthèse méthodologique, à ce qu'on appelle la loi de Brandolini, je ne sais pas si vous la connaissez, qui consiste à dire, en fait, quand on est face à une infox, à une fake news, à quelque chose de faux,
on a
beaucoup plus d'énergie à la réfuter qu'à la produire. Et c'est l'impression que m'a fait votre livre, parce que du coup j'y ai passé beaucoup de temps, je vous ai lu vraiment très précisément, avec sérieux, et puis j'ai dû aller aux sources, parce que le problème c'est que en général toutes les citations qui sont un peu qui se baladent un peu comme sur un coussin d'air, ils ne sont pas référencées, ne sont pas sourcées. Donc en l'occurrence je vous donnerai plein d'exemples si vous voulez. Je suis retournée lire, premier exemple, Une morale de l'ambiguïté de Simone de Beauvoir. Vous l'avez lu,
oui,
puisque vous le citez. Alors pour le coup, c'est un des rares ouvrages que vous citez comme source directe, comme source de première main.
Il y a très peu. Non, attendez. Je cite la plupart des ouvrages en source directe. C'est complètement faux. Je ne peux pas vous laisser dire des choses fausses.
J'encourage n'importe quel auditeur beaucoup d'exemples. Les lecteurs et lectrices se feront leur opinion.
Ludivine Bantini, de toute façon, Samuel Fitoussi, vous aurez toute parole pour répondre.
Voilà. Donc, si vous l'avez lu, c'est finalement encore plus grave que si vous l'aviez cité de seconde main. Parce que vous la citez dans un passage où vous lui faites dire que finalement, les procès de Moscou, tout ça, avec beaucoup de cynisme, ça serait tout à fait légitime si ça sert la révolution. Alors que exactement au paragraphe suivant, elle dit le contraire. C'est-à-dire qu'elle a pris le point de vue de ceux qu'elle appelle les sophistes des détracteurs de l'URSS. Et au paragraphe suivant, que vous ne citez pas, et ça c'est vraiment un problème méthodologique, un biais que vous utilisez systématiquement, je vais vous donner d'autres exemples. Dans le paragraphe suivant, elle dit, mais en fait, il y a ces sophistes, des orthodoxes staliniens qui justifient la violence dans tous les cas, et ce n'est pas possible, ça ne peut pas être une finalité. Et donc elle est extrêmement, justement, critique à l'égard de la violence stalinienne. Et d'ailleurs, voilà, elle se détachera très largement.
Tout de même, Ludivine Mantini, sur l'extrait que l'on vient d'entendre, l'erreur morale, si je puis dire, là, est manifeste.
Ah bah oui, mais vous savez, alors, erreur morale, pas forcément, parce que on laisse un extrait qui date de
1957.
Voilà, 1957. Donc on est avant, par exemple, la révolution culturelle. Donc, et c'est très. Par exemple, je pense qu'on trouverait exactement la même chose pour décrire les bains de foule d'Emmanuel Macron chez un certain nombre d'éditorialistes qui ont été extrêmement séduits et fascinés par Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron n'est pas un dictateur.
Non. Alors non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est en termes de méthode. Là, elle décrit. Qu'est-ce qu'elle décrit ? Elle décrit une affection populaire pour Mao Tse-Tung. Bon, et après, ça ne veut pas dire qu'elle y adhère.
Elle y adhère.
Non, pas du tout. Et donc, y compris ensuite, elle va revenir très largement. Par ailleurs, ça c'est autre chose, mais enfin c'est lié quand même, c'est-à-dire que dans votre livre, vous citez des chiffres, par exemple, vous dites 20 millions de morts en Union soviétique.
Mais c'est faux.
Je sais pas. Oui, bien sûr, bien non, sûr. Mais bien sûr, et... c'est très documenté. C'est non, vous non, confondez par exemple mort et victime. 20 millions de victimes au total. Bon, bref. Ça c'est voilà. Mais je prends un deuxième exemple parce que c'est, ça me permet
un deuxième exemple
puisque on a cité Raymond Aron. Vous avez cité
court pour que tout aussi puisse répondre.
Raymond Aron. Dont vous faites l'éloge, hein, vous venez encore de le rappeler, vous le citez par exemple à propos des années 30. Et donc Raymond Aron dit dans ses mémoires, mais je comprends pas, je m'attendais quand même à ce que les ouvriers, le prolétariat, les communistes, les socialistes se battent contre le nazisme. Et c'est tout ce que vous en dites. C'est tout ce que vous dites justement des communistes, des socialistes, des syndicalistes, du monde ouvrier organisé en classe sociale. Alors que, lisez n'importe quel historien ou historienne des résistances à Hitler dès 1933. Je vous cite par exemple Barbara Kuhn qui a beaucoup travaillé sur les résistances à Hitler. Qu'est-ce qu'elle dit ? La première chose qu'elle dit, c'est la première résistance a été celle du prolétariat allemand, notamment des ouvrières et ouvriers, mais aussi des socialistes et des communistes. Il y a eu des centaines et des centaines d'assassinats. Par exemple, il y a eu une semaine sanglante dès juin 1933. Les premiers camps de concentration, ils se sont ouverts pour interner et enfermer des militants syndicalistes, socialistes et communistes. Il y a eu 57 députés du KPD, donc des communistes, qui ont été exécutés. Il y a eu des centaines et des centaines de personnes fusillées dans ces rangs. Donc en fait, voyez, moi je veux bien vraiment vous suivre sur beaucoup de choses, sur la question des biais cognitifs, etc. Mais d'un point de vue de méthode, d'un point de vue historique, ça me paraît vraiment pas correct. Et donc il y a une sorte de mise en abîme, puisque ce que vous prétendez critiquer, vous le faites très largement dans votre livre.
Alors on laisse Samuel Fitoussi répondre, notamment donc sur cette question centrale de la méthodologie.
Bon, déjà sur le livre de Une morale de l'ambiguïté, moi j'encourage les lecteurs et les lectrices, comme vous dites, à aller se faire leur propre opinion. J'ai pas la même lecture que vous. Le titre, elle met les deux points de vue face à face.
Répondez-moi sur le paragraphe en question
Et elle ne tranche pas.
Pourquoi vous ne citez pas ce paragraphe ?
Je le cite pas parce qu'il.
Non, vous retenez ce qui vous convient. Vous rendez compte ?
Vous dites que j'avais pas la réponse. J'ai mis la référence exacte du livre avec la page. Je peux envoyer même le PDF à tout lecteur qui me le demandera. Si j'ai pas la même lecture que vous. Ensuite. Sur Simone de Beauvoir, en 1954, quand elle se rend en Chine, la Chine est déjà une dictature et elle reste maoïste longtemps. Elle s'est lourdement trompée sur la Chine, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas l'admettre. Elle s'est aussi trompée plus tard sur Cuba, où elle se rend à Cuba et elle arpente l'île avec Fidel Castro. Elle revient et elle dresse un portrait dithyrambique dans la presse de Fidel Castro, où elle explique que les paysans cubains attendent tous l'arrivée de Fidel Castro et avaient les yeux au ciel levés sans cesse en espérant que Fidel Castro descendrait du ciel pour les éclairer de ses lumières. On sait que Fidel Castro a créé une dictature et a semé surtout la désolation humaine. Sur Aron et les Allemands, à aucun moment dans mon livre, je critique les syndicalistes allemands. Mon livre ne porte pas sur les syndicalistes allemands. Mon livre porte précisément sur les intellectuels. Et je montre à nouveau que le nazisme était populaire sur les meilleures universités allemandes. Ce que dit Aron, c'est qu'il s'est étonné de la relative passivité du peuple allemand.
Vous rendez qui compte ? Non, pas du peuple allemand. Vous dites pas. Non, du c'est... prolétariat allemand, des communistes allemands. C'est ça que vous citez.
Votre travail
comme essayiste.
Pendant la montée du nazisme.
Votre travail comme essayiste aurait été d'interroger la pertinence de ce que dit là Raymond Aron, parce qu'en l'occurrence, il se trompe lourdement. Et c'est ça que je vous reproche. C'est pas du tout de citer Aron ou de vous reconnaître dans Aron, voilà. Et le pluralisme des opinions que vous défendez, je le défends aussi. Et je pense que c'est absolument fondamental dans une démocratie. Ce qui est plus compliqué, c'est de dire que les diplômés mettent en danger la démocratie, et de ne pas discuter les références que vous mobilisez.
On va revenir à ça. Samuel Fitoussi, terminer d'un mot, et ensuite on va venir justement à ces biais cognitifs qui empêcheraient certains intellectuels de penser justement.
Je montre avec Aron et d'autres qu'effectivement, on se range souvent au fait accompli. Quand des événements politiques surviennent, une résistance émerge au début et puis souvent, l'opinion connaît un effet cliqué et se range au fait accompli. Aron, dans la phrase que je cite d'Aron, Aron, c'est pas une attaque contre les syndicalistes allemands, ça aurait aucun sens de dire ça dans mon livre, ce n'est absolument pas mon sujet. Aron était à Cologne et a observé la popularité du nazisme, notamment chez les intellectuels. Il leur raconte...
Dans la citation,
vous avez un problème avec la citation parce qu'elle attaque la gauche. gauche et que vous aimez pas quand on attaque la gauche, mais c'est une citation qui parle des Allemands dans leur globalité.
Bien, donc moi
c'est un fait que le nazisme a été populaire en Allemagne, c'est comme ça qu'Hitler est arrivé au pouvoir.
Ça me suit aussi, Ludivine Bentini, je me permets de clore ce chapitre. J'aimerais qu'on en vienne justement au cœur du livre, au cœur de l'ouvrage, sur ces biais que vous évoquiez vous-même, Ludivine Bentini. Quels sont-ils ? Peut-être commençons par celui qui est au centre de votre argumentation, Samuel Fitoussi. Le trop-plein de connaissances, dans le fond, nuit aussi, selon vous, à l'intellectuel ?
C'est pas exactement ce que je dis, c'est pas la connaissance qui nuit à l'intellectuel. Simplement, je montre que le problème, c'est que les intellectuels fondent leur identité sociale sur leurs opinions et par conséquent ont beaucoup de mal à changer d'avis parce que le coût social de la déviation pour un intellectuel est élevé. Un intellectuel qui dit une chose dans un média puis l'inverse le lendemain risque de perdre par exemple sa chronique, risque de perdre...
Ça vous l'avez dit, c'est un premier biais, je parle d'un autre biais en particulier quand je disais trop plein de connaissances, c'est-à-dire il y a un biais que vous décrivez justement, les intellectuels sont parfois trop chargés en savoir, vous parlez d'unité de connaissance, et cette unité supplémentaire les éloigne, selon vous, de la vérité.
Oui, parce que ce que je montre, c'est que c'est pas la connaissance en tant que telle, c'est que une fois qu'on est arrivé au stade où on n'arrive plus, où on ne peut plus changer d'avis pour des raisons cognitives, on utilise les informations qu'on a pour se créer des bulles, des billes rhétoriques contre les contre-arguments. Et puis par ailleurs, il y a un biais de partialité où on va avoir tendance à lire une information de sorte qu'elle confirme les postulats auxquels on croit. On va aussi avoir, évidemment, il y a aussi le biais de confirmation, on va avoir tendance à filtrer le monde, à le voir avec des œillères et à accorder plus de poids aux informations qui confirment nos présupposés. Si je peux développer sur Arthur Koestler, qui se rend par exemple dans les années 30 en Ukraine, il est à ce moment-là persuadé, il est fanatique communiste, et il est persuadé que l'URSS a trouvé la clé du bonheur humain. Et il se rend en URSS et il voit des paysans affamés supplier les rares touristes de leur donner un bout de pain noir. Il voit des mères porter leurs bébés squelettiques aux vitres des trains pour espérer avoir un petit peu de nourriture. Il voit des gens qui sont aveugles parce qu'ils manquent de calories. Et pourtant, ce qu'il écrit dans son journal de voyage, c'est que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Il ne consigne pas ces observations-là. Par contre, il écrit que dans le village dans lequel il dort, il y a une super cabine téléphonique qui laisse présager un avenir radieux.
Il ne voit pas ce qu'il voit, pour reprendre la formule.
Donc voilà, pour reprendre la formule de Peggy, exactement. Il ne voit pas ce qu'il voit. Il a une phrase dans ses mémoires qu'il écrira plus tard. C'est « J'avais des yeux pour voir et un cerveau entraîné pour déformer ce que mes yeux voyaient. » Et donc ça, je pense que c'est le propre de l'idéologie. Et évidemment, Arthur Koestler, plus tard, en reviendra avec une grande lucidité dans ses mémoires.
Ludivine Bentini, est-ce que cela revient à cette distinction que vous formuliez un peu plus tôt dans le débat entre valeur et savoir ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est le problème de tout mettre sur le même plan. Par exemple, quand vous dites que les scientifiques n'ont pas à prendre position sur des questions qui concernent le vivant, l'écologie, vous le dites. Vous dites qu'il n'y a pas de légitimité particulière et qu'il vaut mieux que la science ne le fasse pas. Moi, par exemple, j'ai encore lu récemment...
Non, c'est pas ce que je dis.
Si vous le dites...
Non, je ne dis pas ça. Je dis que le scientifique peut éclairer nos arbitrages, mais il ne peut pas les prendre à la place du peuple.
Oui, il n'a pas de légitimité particulière, et dans votre conclusion, vous dites, ou votre dernier chapitre, vous dites que la science n'a pas à aller sur le terrain du politique ou des questions de société en général. Moi, je viens de lire par exemple un très bon livre qui s'appelle Une histoire populaire de l'univers, parce que je veux souligner qu'il n'y a pas que des sciences sociales qui peuvent nous faire réfléchir, y compris en termes de conviction et de valeur. C'est un livre d'un cosmologiste qui s'appelle Jean-Philippe Uzan. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux, et en même temps, oui, il y a d'un côté la description scientifique de l'état des savoirs, et d'un autre côté, un engagement, parce que c'est il y a vraiment une urgence. Et donc,
je me permets juste de vous interrompre, mais pour vous pousser encore plus loin, il faut peut-être expliquer comment l'un et l'autre peuvent s'articuler, car c'est souvent une critique qui est adressée aux intellectuels.
Il y a d'un côté la façon dont on établit ce savoir, et souvent les chercheurs et chercheuses en l'occurrence, mais le monde intellectuel est au sens très large, hein, parce que moi, comme je l'ai dit, le terme d'intellectuel, il me séduit pas beaucoup, il m'importe pas beaucoup d'ailleurs. Enfin, ce qui compte pour moi, c'est vraiment l'intelligence collective et son rapport à la démocratie, à l'émancipation, à la justice. Bon, mais il y a une distinction toujours faite entre le savoir établi scientifiquement d'une d'une part, et d'autre part, les convictions et les valeurs. Alors, bien sûr, vous avez raison de dire que on peut se tromper sur les valeurs, même si, là, moi, je vous reprendrai aussi, parce que vous êtes très catégorique quand vous dites « se sont trompés ». Enfin, c'est assez étonnant. Mais par exemple, vous dites, à l'instant, vous dites alors, on ne peut pas changer d'avis. Quand on est en position de domination, alors c'est très intéressant.
Parce que on ne peut pas changer d'avis.
Ah, vous avez dit, je l'ai noté. Hein. On ne peut plus changer d'avis. Hein. J'ai noté exactement ce que vous avez dit.
J'ai dit 30 secondes après qu'Arthur Koestler a changé d'avis.
S'il vous plaît.
Non, mais vous m'attaquez, vous me faites juste.
Je l'ai noté exactement. Une fois qu'on est en position de domination, avez-vous dit, je ne vous ai pas coupé. Une fois que vous êtes en position de domination intellectuel, on ne peut plus changer d'avis. Alors moi, tout au long de l'ouvrage, d'ailleurs, je me suis dit, mais c'est une véritable mise en abîme, y compris de vous-même ou de, enfin là, d'un certain milieu, par exemple très anti-wokisme, puisque votre précédent essai c'était sur le wokisme, puisque en fait vous-même vous êtes chroniqueur au Figaro, vous écrivez au Point, etc. Donc forcément il y a un milieu qui vous tient.
Bien
alors
sûr.
Mais je vais vous poser une question très concrète sur un de vos postulats, puisque vous dites que quand on est en position de domination, il y a des postulats qui sont pas très interrogés. Bon, aujourd'hui d'ailleurs ça serait plutôt un conformisme que d'être anti-wokiste, hein. Mais enfin supposément
question.
Eh bien c'est ce que vous dites sur l'université et la monoculture idéologique. Vous dites, à l'université, il y a une monoculture idéologique. Bon. Alors, par exemple, est-ce que vous savez, il y a une enquête récente qui vient d'être menée, qui est très documentée, dirigée notamment par Étienne Ollion.
Professeur de sociologie à Polytechnique.
À Polytechnique, exactement. Quel est le pourcentage des études sur le genre à l'université? Vous diriez quoi?
J'ai lu cet article dans Le Monde qui recensait ces résultats et la façon, c'est 10% quelque chose comme ça, oui. C'est relativement
exactement.
Faible. Mais sauf qu'ils définissent de façon assez restrictive
non, pas
les
du
études
tout.
Sur le
c'est
genre.
C'est extrêmement
y a pas,
sérieux.
Par exemple, il y a pas, y a, et lui, je peux répondre quand même. Il y a pas par exemple des choses sur le patriarcat, etc. Donc si on élargit au sujet,
non, justement,
genre,
en fait, vous l'avez mal lu parce que il dit 10% et jusqu'à 15% quand on a une définition plus extensive, quand on parle du genre sur d'autres sujets.
Voilà,
par exemple, vous parlez d'écriture inclusive, comme si l'écriture inclusive vous en fait quelque chose justement qui participerait à cette supposée monoculture idéologique. L'écriture inclusive, elle est utilisée avec quel pourcentage dans les articles de recherche à l'université?
Je ne parle pas d'écriture inclusive.
5%.
Je parle pas d'écriture inclusive.
Donc,
alors Samuel Fetoussi, vous permettre de répondre et de réagir. Revenir sur ce que vous disiez un peu plus tôt sur l'université. Qu'est-ce qui vous pose problème justement dans cette monoculture, je mets des guillemets autour de l'expression, cette monoculture universitaire?
Aujourd'hui, c'est un fait extrêmement bien documenté que la gauche domine à l'université dans les départements de sciences sociales. Moi, ma cible, c'est uniquement les départements de sciences sociales. Je ne m'oppose pas à tous les départements de sciences sociales en tant que tel.
Le mot est fort, votre cible.
Non mais voilà, c'est pour ça que je me suis repris. À nouveau, moi j'ai fait des études d'économie à Cambridge, j'ai appris énormément de choses, je suis très redevable à cette institution qui m'a nourri, formé intellectuellement, et on retrouve une certaine quantité des choses que j'ai apprises là-bas dans mon livre. Donc non, je ne m'oppose pas aux sciences sociales évidemment en tant que telles. Simplement, je décris certains mécanismes qui peuvent mener à l'irrationalité dans ces départements. Raymond Boudon, dans Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, qui lui-même était un sociologue en parler. Le problème, c'est que, si vous voulez, le mécanisme de validation par les pairs peut créer des incitations perverses. Le mécanisme de validation par les pairs qui fait qu'on publie un papier scientifique quand d'autres universitaires l'approuvent, fait que souvent, dans les départements universitaires, le critère de vérité, ce n'est pas est-ce que c'est vrai au regard d'un critère de vérification empirique, mais est-ce vrai au regard de l'opinion d'autres universitaires sur ce sujet.
Mais est-ce que c'est si vrai, Samuel Fetoussi, même les pairs regardent d'abord et avant tout la méthodologie employée, regardent les sources, regarde le travail universitaire rigoureux et pas seulement par incohérence idéologique.
Bien sûr, mais les pairs peuvent se tromper. Si vous voulez, par exemple, à Sciences Po aujourd'hui, plus de 60% des étudiants pensent que le genre est purement une construction sociale.
Les étudiants, c'est pas eux qui produisent des papiers dans les revues.
Les étudiants sont nourris par leurs professeurs, vous serez d'accord avec moi.
Non, par d'autres sources également. Voilà, par des sources très, très diverses. Non, bien sûr que non.
Bon.
D'ailleurs, faites la même étude auprès des professeurs, vous verrez que ça diffère.
Donc les départements de sciences sociales ne penchent pas à gauche aujourd'hui. Les départements de sciences sociales penchent à gauche. Et comme les thèmes étudiés sont des thèmes à forte charge politique, le genre, le patriarcat, parce que vous dites il n'y a que 15% des papiers qui portent sur le genre. Mais 15%, ce n'est pas 0,1%. On peut considérer que 15%, c'est beaucoup.
Par exemple, si vous lisez l'enquête d'Étienne Ollion et consorts, vous verrez qu'il y a plein de disciplines des sciences humaines et sociales pour lesquelles le pourcentage est infime, moins de 1% ou 2%. Vous le savez, vous l'avez lu cette enquête.
Vous avez dit 15% il y a...
Oui,
donc,
oui.
Ce qui me semble significatif quand même.
Alors, 10% en moyenne dans les sciences sociales, donc qui dit moyenne, dit en effet 15% par exemple en sociologie, et dit 2 à 3% dans d'autres disciplines
sociales. Qui dit moyenne, par conséquent, dit plutôt 45% en sociologie et 2%.
Pas du tout, mais l'enquête...
15% c'est la moyenne par définition, si c'est 2% dans des endroits...
Non, monsieur, 10% c'est la moyenne, et en sociologie, c'est documenté par cette enquête, c'est 15%.
Je me permets juste de clore.
Je corrige parce que 40%...
On va pas avoir une guerre de chiffres, il nous reste seulement 2 minutes 30. Juste un mot, Samuel Fitoussi, et je laisserai Ludivine Bantini répondre à cela. Souvent, dans votre ouvrage « Pourquoi les intellectuels se trompent » qui paraît aux éditions de l'Observatoire, vous qualifiez les intellectuels d'élite. Est-ce que vous estimez que l'élite véritable de ce pays, l'élite symbolique, l'élite culturelle, ce sont les intellectuels tels que vous les définissez ?
Non, évidemment qu'il y a aussi une élite économique, il y a une élite, mais il y a aussi une élite culturelle, si vous voulez, qui a un pouvoir, une influence significative sur la direction que prend nos sociétés, par les livres qu'ils publient, par les idées qu'ils infusent dans le débat public, par le fait qu'ils ont l'oreille des décideurs. Donc c'est, si vous voulez, une élite culturelle, une élite peut-être politique, mais évidemment c'est pas la seule élite, il y a aussi une élite bourgeoise, si vous voulez parler comme Sartre, une élite économique. Donc voilà, mais je pense quand même qu'il est aujourd'hui plus important d'interroger les biais précisément de cette élite intellectuelle que les biais des baratineurs au PMU, parce que c'est cette élite intellectuelle-là qui a un pouvoir disproportionné sur les directions que prennent nos sociétés.
On a beaucoup parlé des biais des intellectuels. Quels sont les biais des essayistes, nombreux justement sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio? Qu'est-ce qui fonde la légitimité d'un essayiste? Qu'est-ce qui fait encore, j'allais dire, son savoir et la singularité de son savoir?
Je pense qu'un essayiste a l'avantage de pouvoir ne pas se spécialiser, avoir une vision assez généraliste de la société, ce qui évidemment a des inconvénients. Il est peut-être moins expert d'un sujet, mais il peut mettre en relation les différents thèmes les uns avec les autres. Je pense qu'aussi un essayiste vit parfois dans une moindre monoculture idéologique, parce que, je l'ai dit, l'université, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à Harvard aujourd'hui par exemple, je sais qu'Harvard n'est pas en France et c'est aux États-Unis, mais dans les sciences sociales, seuls 3% des professeurs se déclarent conservateurs. Quand on n'est pas confronté à des opinions divergentes, ça peut à nouveau mener à l'irrationalité. Et donc je pense que les essayistes ont énormément d'autres biais, évidemment. Aujourd'hui en France, il y a un écosystème médiatique de droite où, de la même manière, il y a plutôt une monoculture idéologique dans l'autre sens. Et les essayistes peuvent évidemment être irrationnels, mais je pense qu'un essayiste peut fonder une légitimité sur les livres qu'il vend, le fait de plaire à un public, de nourrir intellectuellement des gens, et un essayiste peut écrire des choses très intelligentes.
Ludivine Bantini, j'allais dire en une minute, car déjà nous arrivons au terme de... Mais sur la figure de l'essayiste, alors recentrons-nous là-dessus.
Alors non, il y a de bons essayistes, il y a de très bons essayistes, et puis de mauvais, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours très honnêtes, parce qu'ils ont plein de biais méthodologiques, et aussi vivent dans une monoculture idéologique qu'ils transmettent allègrement via une machine de guerre médiatique. Mais moi, je veux redire qu'il y a un danger pour la démocratie quand on estime que les universités ou les diplômés sont, je cite le livre de M. Fitoussi, une menace pour la démocratie. Je pense qu'il y a un danger pour la démocratie et la liberté d'expression quand on estime qu'il ne faut pas développer trop l'esprit critique et qu'il ne faut pas non plus, et je le cite encore, légiférer sur la haine et la désinformation. Voilà, ça me paraît vraiment... C'est pour ça que j'ai accepté vraiment de venir dans cette émission, et je vous en remercie beaucoup pour cette invitation, parce que ça me semble poser des questions vraiment fondamentales, cruciales, sur la liberté d'expression, sur le savoir,
je
la science,
la liberté d'expression,
et également sur la démocratie.
Merci à tous les deux de cette discussion tendue, certes, mais une discussion tout de même. Samuel Fitoussi, pourquoi les intellectuels se trompent à l'Observatoire, Ludivine Bantini, nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe de la révolution à nos jours, aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup. Merci.